C'est arrivé cette semaine.
David Abiker.
Bonjour et bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. Le renoncement historique de François Hollande à briguer un second mandat. Peut-il encore sauver le Parti Socialiste et ses bases électorales? Je poserai la question à Gérard Guimbert, politologue et spécialiste de la gauche. Mardi, l'Allemagne a reconnu avoir été victime de cyberattaques provenant de Russie, ayant pour but de créer de l'incertitude politique. La France est-elle concernée? J'interrogerai Nicolas Arpagian, directeur scientifique du cycle Sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Interruption volontaire de grossesse. L'Assemblée a voté jeudi le projet de loi instaurant un délit d'entrave pour les sites pratiquant la désinformation des femmes. L'Église est contre. Le décryptage de l'historien des religions et théologien Jean-François Colosimo. Il est non-voyant et participera cet après-midi au Longines Master de Paris, dont Europe 1 est partenaire. Salim Ejnaini nous racontera comment il est devenu un cavalier de compétition.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
David Abiker.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
En renonçant à briguer un second mandat jeudi soir, François Hollande rend-il service à sa famille politique? Que représente cette décision inédite sous la Ve République? Je pose ce matin la question aux spécialistes de la gauche, directeur de recherche émérite au CNRS, Sciences Po, animateur du site Telos, Gérard Guimbert. Bonjour Gérard Guimbert.
Bonjour.
Un mot d'abord de ce renoncement, Gérard Guimbert. Dès le mois d'août, vous déclariez au Monde que cette candidature était problématique. Vous n'avez donc pas été surpris?
Non, je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris parce que il y avait quand même beaucoup d'éléments qui allaient dans le sens de la non-présentation. Il y avait quand même une dégradation de l'image, des intentions de vote terribles, parce que indépendamment de la primaire qui s'annonçait difficile, il faut bien voir qu'il était probable, pas certain, mais probable que François Hollande, s'il était candidat à l'élection présidentielle, arriverait peut-être cinquième, ce qui quand même était extrêmement difficile. Et puis je crois qu'il y a eu cette primaire que finalement François Hollande a accepté de mauvais gré forcément, hein, mais qui lui a été un peu imposé, disons, par Jean-Christophe Cambadélis, parce qu'il voyait bien qu'à partir du moment où, malheureusement, les socialistes n'étaient pas d'accord pour dire que si un président se représentait, il fallait pas qu'il y ait de primaire, ce qui me paraît le plus normal. Mais enfin bon, ils n'ont pas pu faire ça. Et à partir de ce moment-là, quand ces derniers jours, François Hollande s'est aperçu qu'il allait peut-être perdre cette primaire, je crois que c'est là le nœud du problème, il allait la perdre. Bon, ils ont essayé, vous avez vu, ils ont essayé de dire on va peut-être passer par-dessus, tout ça. Et puis là, quand Cambadélis leur a dit écoutez, là on casse le parti, et donc François Hollande a compris qu'il ne pouvait pas aller plus loin.
Gérard Guimbert, quand je vous entends, on dirait que François Hollande a été le plus lucide des socialistes, sentant le sol électoral se dérober sous ses pieds. C'est peut-être lui qui le sait le mieux que les terres socialistes sont en émiettement.
Ah oui, ça, il sait que la situation est extrêmement difficile. Il a compris, il a pris sa décision très tard, hein, très tardivement. Mais enfin, il a compris que ça n'était pas possible. Parce qu'il l'a dit, d'ailleurs là, il a dit je peux pas rassembler. Non seulement il peut pas rassembler la gauche, ça on le savait depuis longtemps, mais il pouvait pas rassembler le Parti Socialiste. Ça on le savait depuis un certain temps, mais il savait même plus rassembler ses amis. Et là, on le savait depuis peu de temps, depuis ce fameux livre dont tout le monde a parlé.
Est-ce qu'il a fait, c'est historique, c'est moderne, ou c'est cet aveu d'impuissance dont vous parlez? C'est moderne de ne pas briller un second mandat, on peut le dire comme ça?
Non, je crois surtout, enfin moderne, ça dépend ce que vous appelez moderne, disons que ce que je pourrais dire, c'est qu'on voit bien que ça devient de plus en plus difficile dans une période très difficile, économiquement, stratégiquement, etc. C'est très difficile pour un président de sortir à peu près indemne de son quinquennat et de son mandat. Donc de ce point de vue-là, on peut dire moderne. Si on pense que l'histoire redevient tragique et difficile, oui, c'est peut-être moderne. Mais je crois surtout que ce qu'il a décidé, c'est des conditions purement politiques. C'est qu'il ne pouvait pas. Il était trop seul. Qui l'aurait aidé pour cette campagne présidentielle?
Gérard Guimbert, je vous ai entendu dire en septembre que l'électorat socialiste était en miettes. La primaire socialiste sans François Hollande, est-ce qu'elle peut remobiliser ses électeurs perdus?
Alors elle peut remobiliser un peu pour la primaire elle-même. Pourquoi? Parce que normalement, sans trop m'avancer, je pense qu'on devrait enfin, au moins en partie, avoir ce fameux débat qu'on n'a pas suffisamment depuis 40 ans dans le Parti Socialiste, et qui est de savoir quel type de politique, en particulier économique, il faut mener. Voilà. Est-ce qu'on l'aura? Et en tout cas, si on l'a, ça peut mobiliser contre et pour dans les deux camps, ça c'est sûr. Maintenant, ça peut aussi avoir un résultat inverse, c'est de casser le parti.
Alors, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lindemann, Pierre Laroutourou, Jean-Luc Benhamia, Gérard Filoche et peut-être demain ou après-demain ou lundi Manuel Valls, il y aura au moins 7 candidats à cette primaire socialiste. C'est d'un certain côté la fin des éléphants du PS, c'est la fin des courants, c'est aussi l'aventure personnelle en guise d'idéologie. Je dis aventure personnelle parce que je vous cite, je vous ai lu Gérard Grimbert.
Oui, moi je pense effectivement que le Parti Socialiste n'est pas menacé de l'intérieur, mais il est aussi menacé sur ses ailes, on l'a vu. Et effectivement, ce qui me frappe, parce que quand on parle de la crise du Parti Socialiste, il y a plusieurs sortes de crises. Il y a la crise du parti de gouvernement, on vient de le voir avec le départ de François Hollande. Il y a cette crise alors très longue de savoir quelle est la politique du Parti Socialiste, pas réglée depuis 40 ans, hein. Donc ça, il faudrait en discuter. Mais la troisième, et ça nous est fourni par ce qui se passe à l'extrême gauche comme au centre depuis quelques mois, c'est-à-dire que pour la première fois, ça n'est plus les partis qui mènent le jeu, mais les individus. À gauche, à droite, c'était relativement dans les gènes, je dirais, de la droite, encore que ça vient de se renverser précisément. Mais à gauche, ça n'était pas le cas. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Mélenchon vient de tuer le Parti Communiste. Que Macron va faire du mal au Parti Socialiste. Et que quand Madame Duflot a eu vraiment, s'est dit, c'est mon tour, elle a tué à moitié les Verts. Donc on a aussi un problème des partis politiques. De ce point de vue-là, Macron est peut-être en avance, je n'en sais rien, sur son idée que la forme parti qu'on a connue à gauche depuis 100 ans, peut-être qu'elle est en crise.
J'allais vous poser la question, qui sont les prédateurs du Parti Socialiste et de ses électeurs? Vous en avez cité la moitié, mais entre Mélenchon, Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, peut-être François Bayrou, qu'est-ce qui va rester au PS?
Ah ben je dis toujours, c'est comme une omelette auquel on a enlevé les deux bouts. Hein, donc il se rétrécit et il se peut soit qu'il se casse en deux, soit qu'il devienne un petit parti. Le problème, c'est que quand Monsieur Montebourg dit je vais tendre la main à Monsieur Mélenchon, qu'est-ce que ça veut dire pour ce parti, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Et quand les socialistes iront chez Monsieur Macron, qu'est-ce qui restera du Parti Socialiste? Et à l'inverse. Et c'est quand même, il faut se poser la question de tous ces gens qui ne veulent pas de parti, n'en auront-ils pas besoin quand on aura les élections législatives? Parce que faut jamais oublier qu'on est un régime parlementaire. Il suffit pas, on ne parle que de l'élection présidentielle. Mais ce qui est important, c'est les élections législatives. Or, il se peut que tous ces grands hommes se retrouvent avec 10 députés à l'Assemblée nationale. Ça change beaucoup les choses, hein.
Avant les législatives, en quelle position peut se retrouver le candidat du Parti Socialiste issu des primaires au premier tour de la présidentielle? Troisième, quatrième, il y a une chance qu'il soit second?
Du Parti Socialiste? Ah écoutez, c'est très peu probable pour l'instant, d'après ce qu'on voit. Il faudrait que le parti soit plus uni, que le candidat porte vraiment des choses. Je ne dis pas que c'est impossible, mais pour l'instant, si vous me demandez mon avis, ou en tout cas une prévision, toujours difficile à faire, je pense que... il y a des chances que ce candidat arrive cinquième en réalité. Cinquième. Donc, cinquième. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est l'heure de vérité pour le Parti Socialiste.
Est-ce que ce renoncement de François Hollande, c'est d'une certaine façon précipiter la mort d'un certain PS dans un contexte historique inédit? C'est la première fois sous la Ve République qu'un président renonce à briguer un second mandat. Est-ce que cette mort peut permettre au Phénix de renaître de ses cendres électorales?
Je sais pas, parce que vous savez, vous avez d'abord une crise générale de la social-démocratie. Si c'était que la France, mais ça n'est pas que la France. Est-ce que la social-démocratie qui s'est développée comme étant à la fois un parti de gouvernement dans une Europe libérale et en même temps un parti qui porte des valeurs anticapitalistes, tout ça quand même qui fait quand même des contradictions assez complexes, qu'il a pu surmonter parce qu'il était grand et qu'il pouvait gouverner? Aujourd'hui, la situation est très difficile. Il peut ni être totalement ce qu'il était d'un point de vue idéologique compte tenu de l'environnement, et il risque de ne plus être un parti de gouvernement. Et ça, c'est un problème de la social-démocratie européenne.
Gérard Grimbert, j'ai tout lu de vous, vos prévisions étaient plutôt bonnes. Je retiens que vous annoncez que le Parti Socialiste peut être cinquième au premier tour de l'élection présidentielle. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes spécialiste de la gauche, directeur de recherche émérite au CNRS, animateur du site internet Telos. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin. À suivre, une question qui se pose depuis que mardi, l'Allemagne a reconnu que la Russie pratiquait des cyberattaques à des fins politiques. La France peut-elle être aussi la victime de ces cyberattaques? On en parle avec Nicolas Arpagian, spécialiste de cybersécurité.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
David Abiker.
C'était mardi, le nouveau patron du renseignement allemand a reconnu qu'il existait des indications selon lesquelles des cyberattaques se produisent dans le seul but de créer de l'incertitude politique à quelques mois des élections allemandes. Pour beaucoup d'experts de cybersécurité, il ne fait plus aucun doute que la Russie est derrière ces tentatives de déstabilisation politique. Pourquoi et comment, selon quelle méthode? Question posée ce matin au directeur scientifique sécurité numérique de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, Nicolas Arpagian. Bonjour.
Bonjour.
Pour que les Allemands pointent la Russie aussi directement mardi, de manière aussi précise, comme les Américains d'ailleurs il y a quelques semaines, qu'ils évoquent une tentative de déstabilisation politique, il faut des faits. Qu'est-ce qui s'est passé au juste en Allemagne en début de semaine?
Alors déjà, la première chose, c'est que les Russes revendiquent une doctrine qu'ils qualifient d'hybride, c'est-à-dire dans lequel il y a un volet numérique de déstabilisation, effectivement dans lequel il y a l'usage des systèmes d'information. Alors on va garder à chaque fois les deux piliers de l'Internet, c'est-à-dire à chaque fois les tuyaux, la prise de contrôle, le fait de voler et de rentrer dans un système, mais également le fait de diffuser des informations de manière à créer un trouble. Et effectivement, on a eu le cas. Alors en fait, ça dure déjà depuis plusieurs mois, puisque déjà en 2015, le Bundestag, l'équivalent de l'Assemblée nationale en Allemagne, avait déjà été piraté de manière à capter des informations. Et en janvier dernier, il y avait eu une grosse polémique en Allemagne parce que une jeune femme d'origine russe aurait été violée. Cette information était relayée par des sites d'information russes et ça a suscité des manifestations, des mobilisations sur le territoire allemand par des Allemands d'origine russe, alors que évidemment tout cela était absolument infondé. On voit qu'avec des informations, on crée de la déstabilisation. La campagne électorale américaine a montré également que la révélation d'un certain nombre de messages internes au sein du Parti démocrate avait pu avoir un impact, affecté l'image d'Hillary Clinton. C'est effectivement ce que craignent les Allemands concernant des attaques au sein de leurs organisations politiques.
Alors, les Allemands parlent de cyberattaques. Ils disent, bon, ça vient de Russie, mais dire ça vient de Russie, ça ne veut pas dire que c'est Poutine qui a appuyé sur le bouton ou qui a embauché les pirates ou les hackers.
Voilà. Alors, la seule chose, c'est que maintenant, la Russie commence à avoir un certain palmarès, en quelque sorte. C'est-à-dire, depuis 2007, on a effectivement, que ce soit de l'Estonie à la Géorgie, et puis en plus, effectivement, l'implication de Russes, sachant que les Russes font souvent la différence entre leur population, ils parlent d'ailleurs de patriotisme, en disant qu'effectivement, en Russie, il n'est pas illégal d'être patriote et que si des ressortissants russes souhaitent participer au débat ou en tout cas faire exprimer leur opinion, ça peut faire partie des moyens. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'arme numérique est partie prenante des arsenaux des États.
Alors, les Allemands sont assez transparents, ils ont une culture, même Angela Merkel a parlé de ces cyberattaques. En France, c'est moins le cas, mais on est conscient du danger. Ça peut être contagieux, une cyberattaque russe.
On voit bien que ça se rapproche. C'est-à-dire qu'on a le cas américain, on a effectivement le signal d'alerte allemand. Donc effectivement, en plus la France, ce n'est pas un secret, rentre en période électorale et on se dit même cause, mêmes effets. Effectivement, les partis politiques pourraient faire l'objet de campagnes de manipulation ou d'infiltration à l'occasion de la période électorale qui s'ouvre.
Alors c'est tout l'enjeu parce que les cyberattaques, au départ, on est plutôt coutumier du fait qu'elles s'en prennent à des grands opérateurs télécoms, à des entreprises. Mais là, il y a clairement un danger sur les institutions démocratiques.
En fait, on joue sur l'information. Dès lors qu'on a pris l'habitude de se fier aux données qui sont même statistiques, chiffrées, on parle quelquefois de vote électronique, le fait qu'on considère qu'on a confiance dans la technologie, dans l'intégrité des systèmes d'information. Là, la difficulté, c'est que ça va instiller le doute, c'est-à-dire à un moment de se dire, mais est-ce que ce que je vois à l'écran correspond bien à la réalité? C'est un problème que les militaires avaient eu également concernant des armes qui peuvent être téléguidées, c'est de se dire après tout, est-ce que quelqu'un n'est pas en train de prendre la main sur mes instruments de pilotage? On voit également que l'information a un poids. J'évoquais le cas de la fausse polémique en Allemagne concernant cette jeune femme d'origine russe. Et effectivement, ça crée, en tout cas, ça occupe déjà la scène médiatique et puis ça crée des tensions. C'est un facteur, comme le disaient les Allemands, de déstabilisation, de pollution du débat public parce que ça focalise sur des sujets qui en principe n'ont pas lieu d'être ou des réalités qui n'existent pas.
Est-ce que les partis politiques en France sont sensibilisés parce que l'automne a été lourd d'attaques de ce type-là? Vous l'avez dit aux États-Unis, il y a le cas allemand. Est-ce qu'en France on réagit? Est-ce qu'on bouge?
Alors, on bouge à l'initiative de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est une agence sous l'autorité du Premier ministre, a convié, en même pour être plus aimable, les responsables de partis politiques en leur disant attention.
En septembre.
En septembre, exactement. Vos communications, vos fichiers, les informations que vous échangez, ça peut faire l'objet. Alors, il y a eu des réponses disparates. Il s'avère que, par exemple, un certain nombre de candidats, alors à l'époque Alain Juppé, Emmanuel Macron, utilisent des messageries chiffrées. Le problème, c'est que, bah, ils ont pris celle dont on parle, c'est-à-dire le russe Telegram, par exemple, fait florès dans les équipes des candidats. C'est vrai que, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent une solution sans forcément d'ailleurs en maîtriser le contour technique. En tout cas, on voit le problème d'un parti politique, c'est qu'au moment d'une campagne, c'est quelqu'un qui doit recevoir tous les soutiens. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dans une région, un collectif professionnel, dit voilà, moi j'ai des adhérents, j'ai des gens qui veulent vous soutenir, voilà, vous trouverez la liste si jointe. Bon bah évidemment, c'est des occasions inespérées pour contaminer. Et donc effectivement, ils sont particulièrement exposés.
Nicolas Arpagian, spécialiste de cybersécurité. Prenons un cas d'école. On organise des primaires en France. Ces primaires sont organisées à partir de fichiers informatiques sur lesquels on imprime les listes électorales et puis ensuite on demande aux militants de venir les signer. Qu'est-ce qui empêcherait un jour des pirates particulièrement astucieux de s'introduire dans des fichiers informatiques, de fausser des listes électorales, de fausser des listes de militants et de fausser un résultat?
Alors, en fait, il n'y a pas d'obstacle technique puisqu'on n'a jamais un système d'information qui serait totalement étanche, qui serait totalement robuste. La seule chose qu'il faut, c'est vérifier l'intégrité, faire en sorte que la donnée n'ait pas été altérée avec des systèmes d'audit, de manière à faire en sorte que, en fait, là, déjà, ceux qui ont accès à l'information soient en nombre limité, qu'on puisse tracer les usages qui sont faits de ces bases de données et que l'on puisse avoir des éléments techniques permettant de vérifier leur intégrité, c'est-à-dire que personne n'a cherché à soustraire, à rajouter ou à modifier des éléments de cette liste.
Est-ce qu'on peut dire désormais, en raison de ces attaques, de ces technologies, que l'Europe est en danger? Est-ce que ces institutions sont menacées et comment peut-elle riposter?
Alors l'Europe, déjà, il ne faut pas la voir dans le domaine numérique et de la sécurité comme étant un ensemble homogène. Au contraire, les États sont juxtaposés à poser les uns avec les autres. Et en fait, d'ailleurs, on l'a appris d'ailleurs quand l'Allemagne espionnait pour le compte de la NSA à la France, lorsque effectivement, on s'est déjà aperçu entre nous. Pourquoi? Parce qu'on est des compétiteurs économiques. Et l'arme numérique sert aussi dans cette concurrence entre les États, les entreprises. Et l'Europe n'a jamais organisé. Il y a une agence européenne, mais pour vous dire, elle a un budget de 10 millions d'euros, ce qui est assez modeste à l'échelle des 28. Elle est basée à Héraklion, en Crète, et donc pas au cœur des instances communautaires. Et en tout cas, elle est davantage un lieu de réflexion qu'un lieu d'action. Les États, l'Europe est fragilisée parce qu'elle ne coalise pas ses forces, mais elle les divise entre chacun des États membres. Et donc, c'est autant d'exposition aux risques supplémentaires, sachant que déjà les Européens se surveillent déjà entre eux et ne présentent pas un front commun vis-à-vis de l'extérieur.
Merci à vous, Nicolas Arpagian, directeur scientifique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Que sais-je sur la cybersécurité et dès 2009, vous aviez publié La cyberguerre chez Vuibert. Merci. À suivre, on revient sur ce projet de loi voté jeudi à l'Assemblée nationale pour créer un délit d'entrave contre les sites qui désinforment les femmes à propos de l'IVG. Pourquoi l'Église est contre? Réponse dans un instant de l'historien des religions et théologien Jean-François Colosimo.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
David Abiker.
Jeudi, l'Assemblée nationale votait le projet de loi pour élargir le délit d'entrave aux sites internet diffusant des informations véhiculant des mensonges, des infos biaisées sur l'avortement. Et lundi, le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontier, dénonçait dans ce projet une atteinte grave aux libertés. Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour David.
Historien, essayiste, éditeur, spécialiste des questions religieuses. Jeudi, l'Assemblée s'est prononcée favorable à ce texte. Il faut venir au fond de ce texte. Que dit-il et que veut-il faire? Il veut empêcher des sites d'information qui biaisent l'information sur l'interruption volontaire de grossesse et qui n'ont qu'un projet, c'est dissuader les femmes qui voudraient y recourir. Jean-François Colosimo, de quel site on parle et de quel type d'information, entre guillemets, catholique, on parle?
Il y a toutes sortes de sites. Il y a des sites effectivement extrêmement militants pour lesquels cette question devient en quelque sorte la mère de toutes les batailles. Mais il y a aussi des sites parfaitement caritatifs, tenus par de bonnes dames catholiques qui considèrent que particulièrement les jeunes femmes ont certainement besoin d'être accompagnées, entourées, recevoir une parole. Le problème de la loi, c'est qu'elle dénonce à la fois l'information biaisée, mais aussi la pression psychologique. Et on a l'impression que c'est le gouvernement qui fait finalement de l'avortement, qui est toujours un geste, on le sait, grave, douloureux, c'est le gouvernement qui en fait une espèce d'acte idéologique, de point repère, comme si pour déculpabiliser, il fallait en quelque sorte criminaliser ceux qui considèrent que l'avortement représente un ultime recours, dans tous les cas, assez grave. Voilà. Donc, quelle est cette forme un peu d'échange symbolique qui s'accomplit? Est-ce que finalement, parce qu'on n'est pas d'accord dans une société démocratique, parce qu'on veut exprimer une opinion, parce qu'on veut s'adresser à des gens qu'on considère être effectivement dans une forme de tragédie ou de détresse, est-ce qu'on va se retrouver finalement au tribunal? C'est tout de même une question gravissime de liberté d'opinion. Et puis ça touche finalement aussi à l'amplitude des réseaux sociaux désormais. Enfin, comment se fait-il que le gouvernement entende réguler les réseaux sociaux sur cette question qui reste tout de même une question annexe en réalité, mais symboliquement très forte pour diviser en quelque sorte le pays, alors que le gouvernement est incapable de réguler les sites djihadistes.
Et en même temps, vous avez des sites de pseudo-information sur l'IVG qui sont mieux référencés que des sites d'associations subventionnées par le ministère de la Santé ou qui ont pignon sur rue et qui diffusent un accompagnement social, j'ose dire neutre. Donc là, il y a un vrai problème.
Effectivement, il y a là, façon, un déplacement de société. On l'avait vu avec la question du mariage pour tous, où l'opinion de l'Église catholique, qui compte tout de même, avait été assez négligée, voire très maltraitée. Et puis, d'un coup, lorsque le père Hamel se fait égorger à Saint-Étienne-du-Rouvray, que l'État est en quelque sorte sidéré, lui aussi, comme l'opinion, on compte à ce moment-là sur l'Église catholique pour faire le job, pour accueillir les musulmans dans les églises, pour avoir le discours de paix civile que personne n'arrive à proférer. Il y a là une espèce de contradiction. On a l'impression que dans une certaine représentation idéologique, l'Église catholique reste en quelque sorte l'ennemi de la République, alors que la paix finalement des deux France a été établie depuis très très longtemps. Pourquoi la réveiller avec des mesures, encore une fois, qui ont quel impact au fond, si ce n'est dénoncer, stigmatiser ?
On est dans une séquence quand même assez insolite, Jean-François Colosimo, historien, essayiste, éditeur, spécialiste des questions religieuses. Cette semaine, il y a cette lettre que Monseigneur Gontier, président de la Conférence des évêques de France, envoyait lundi au président de la République, François Hollande, pour que ce projet de loi soit interrompu. Et puis la semaine dernière, on a le pape François qui indique aux prêtres qu'ils pourront désormais, au-delà de son jubilé, pardonner aux femmes qui ont avorté. Alors, quelle lecture il faut faire de cette position de l'Église avec un pape qui semble avancer à pas compter sur les questions de société ?
Je crois que c'est très exactement la bonne question. En fait, le pape élargit aux prêtres un droit qui généralement a été réservé aux évêques, n'est-ce pas ? Parce que effectivement, l'avortement était classé dans ces gestes gravissimes qui ne pouvaient être déliés en quelque sorte que par le représentant local le plus autorisé dans un diocèse. Dire tous les prêtres peuvent finalement remettre l'absolution pour ce qui est pour l'Église catholique un péché grave, c'est dire en fait la porte est ouverte. Nous ne sommes pas dans une attitude, dit le pape, de condamnation, mais dans une attitude d'accueil. Ça, c'est la grande vision théologique, pour le coup, du pape François. Ce n'est pas qu'une vision pastorale.
Jean-François Colosimo, est-ce qu'au-delà de ça, le pape François met un pied dans la porte en disant on pourra pardonner au-delà du jubilé? C'est-à-dire que ce qui était provisoire dans la démarche devient définitif. Absolument. Et à ce moment-là, la ligne moderniste du pape François, ou en tout cas interprétée comme telle, ben, elle s'impose.
Elle s'impose forcément, comme on l'a vu aussi. On a vu que le synode pour la famille, la question de l'accession des divorcés remariés à la communion, la question des formes d'amour irrégulières, si l'on peut dire, concubinage, homosexualité, etc., que le pape n'avait pas parfaitement réussi à faire passer ce qu'il voulait, mais qu'il a insisté, il a mis tout son poids. Hein, c'est la première fois qu'il a dit « je suis le Saint-Père ». Généralement, il était beaucoup plus participatif pour garder la porte ouverte.
Un dernier mot, Jean-François Colosimo. Je reviens sur le résultat des primaires, de la primaire de la droite de la semaine dernière. Est-ce que François Fillon est le candidat de la France catholique ?
Écoutez, le candidat surprise.
Les catholiques, ils sont très divers. Vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle historiquement les cathos de gauche. Je crois plutôt que François Fillon a réussi à parler de manière paisible de la question de l'identité et que l'histoire de France est inséparable sans l'histoire de l'Église catholique et que effectivement, s'il s'agit de rester bien dans un régime laïque, on ne peut pas non plus se priver de l'imaginaire, se priver en fait de quoi ? Du substrat historique.
Jean-François Colosimo, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes éditeur, historien et théologien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Il est non-voyant et participera cet après-midi au Longines Master de Paris dont Europe 1 est partenaire. Salim Ejnaini est mon invité juste après la pause.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
David Abiker.
À l'occasion des 45 ans du Salon du Cheval à Paris et pour le Longines Master dont Europe 1 est partenaire, l'homme de la semaine a 24 ans. C'est un cavalier de haut niveau repéré notamment par l'acteur Guillaume Canet et il a une particularité, ce cavalier, il est non-voyant. Bonjour Salim Ejnaini.
Bonjour.
Vous avez 24 ans, vous faites de l'équitation à haut niveau depuis l'âge de 12 ans. Vous participez ce week-end au Longines Master qui a commencé il y a deux jours. Racontez-moi, j'ai cette curiosité, cette rencontre entre vous, jeune adolescent non-voyant, et l'équitation.
Alors j'ai commencé à monter à cheval dans un club tout ce qu'il y a de plus ordinaire en région parisienne, là où j'habitais à l'époque, c'était à Boulogne. Et j'ai rencontré des personnes, je dirais, à la hauteur de la folie de ma demande à l'époque, qui ont accepté de tenter l'expérience, de me faire monter à cheval. Et le deal était d'essayer en cours particulier avant de intégrer un cours collectif si ça se passait suffisamment bien, ce qui a été fait par la suite. Donc j'ai toujours appris avec des cavaliers classiques, ordinaires.
Mais pourquoi vous avez choisi ce sport-là ? Il y a eu un coup de foudre avec l'animal, avec le cheval. Et puis aussi, comment vos parents ont réagi ? C'était il y a 12 ans, c'est il n'y a pas si longtemps.
Alors mes parents m'ont beaucoup aidé. J'ai une mère formidable qui m'a appuyé là-dedans. C'est-à-dire que j'ai osé lui formuler ma demande. Je devais avoir 11 ans et on a mis pas moins d'un an à trouver un club qui accepte de tenter l'aventure. Aujourd'hui, elle est derrière moi. On pensait absolument pas que ça serait que ça mènerait aussi loin. Moi, je cherchais du loisir.
Salim Ejnaini, cavalier, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à cheval ? Quel type de sensation vous ressentez et avez-vous ressenti dans le contact avec cet animal pour en faire plus qu'un hobby aujourd'hui ?
On est obligé de s'entendre avec l'animal à qui on confie finalement notre vie, notre existence pendant l'espace d'un instant. Il faut qu'on cherche à se comprendre, sachant qu'on ne peut pas se parler. Il y a toute une communication à inventer entre l'animal et nous, via la technique, via l'enseignement des moniteurs, via ce qu'on appelle les aides, donc les jambes, les mains, etc. Il y a tout ça à trouver, tout un dialogue. Et je trouve ça passionnant parce qu'on arrive à monter ensemble une performance commune, quelle que soit la discipline qu'on va pratiquer à cheval, que ce soit pour la compétition ou pour le loisir.
Est-ce que le cheval, c'est vos yeux ? Est-ce qu'il a vos yeux ou ça n'a rien à voir ?
Ah, je dirais que, en tout cas, mon cheval aujourd'hui me connaît par cœur. Il comprend ce que je lui demande sans aucun doute. Alors, on me demande souvent si le cheval sait que je suis aveugle. Je réponds souvent que je ne pense pas. Par contre, je suis certain qu'il sait que j'ai une particularité. Il sait très bien comment arriver à satisfaire mes demandes ou au contraire, les jours où il n'a pas envie, chercher à m'emmerder. Enfin voilà, il sait très bien comment faire pour les deux.
Donc comment il s'appelle ce cheval ?
Le mien s'appelle Rhapsody Relais Pachy. C'est un très beau cheval d'origine belge.
Avec Rhapsody, votre spécialité, c'est le saut d'obstacle. Comment vous travaillez le saut d'obstacle ? Car pour nous déjà, les voyants, c'est pas évident de sauter un obstacle à cheval, mais quand on y voit pas, ça nous semble impossible. Il y a une technique.
Vous savez, il y a un exercice qui revient assez souvent dans les centres équestres, c'est de faire fermer les yeux aux cavaliers pour enchaîner quelques obstacles en ligne, ce qu'on appelle une ligne de cavaletti, c'est-à-dire quelques obstacles réglés à quelques foulées régulières, donc une barre de foulée, etc. Le saut en lui-même n'est pas différent de quelqu'un qui y voit, il faut juste savoir se donner au mouvement, savoir avoir confiance dans ce qui va se passer. Et une fois que c'est fait, c'est à partir de là qu'on peut avancer, quelle que soit la méthode. Rien ne peut être fait sans la confiance. Je crois qu'il faut s'affranchir d'une certaine forme de peur.
Quand vous parlez de ce que vous allez faire cet après-midi, au Longines Master, dont Europe 1 est partenaire, c'est une exhibition avant une compétition qui réunira des cavaliers comme vous de très haut niveau, mais qui eux sont voyants. Cette exhibition va consister en quoi ?
Alors j'aurai la chance d'enchaîner un tour sur le même tracé qu'une compétition donc qui s'appelle la Gold Cup. J'enchaînerai sur le même tracé, naturellement pas sur les mêmes hauteurs. Voilà, c'est une façon d'enchaîner. On met une personne au niveau de chaque obstacle et j'ai quelqu'un qui est au milieu et qui me guide à la voie également sur mes diverses courbes. Voilà, l'idée c'est de faire la preuve que c'est possible, que le niveau équestre n'est pas subordonné aux capacités sensorielles, je dirais.
Salim et Jnaini, il y a quelqu'un qui a compté dans ce parcours, qui vous a encouragé. Peut-être que c'est aussi un peu grâce à lui que vous participez au Longines Master et à votre talent. C'est l'acteur Guillaume Canet, qui est un cavalier émérite et qui est évidemment acteur professionnel, lui.
Je l'ai rencontré à la Baule en 2014, si ma mémoire est juste. Et à ce moment-là, il était concurrent. Il venait de recommencer à monter à cheval suite à la sortie de son film Japlou, qui lui a redonné un peu ce goût du cheval, de la compétition, du saut d'obstacle, voilà, ses premières amours. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de lui dire à quel point j'adorais son histoire. Et j'ai eu le plaisir d'entendre de sa part qu'il aimait beaucoup la mienne également, qu'il s'est exprimé plusieurs fois, notamment dans la presse où il m'a complimenté. Alors moi je dis ça toujours avec beaucoup d'émotion. Et il a souhaité m'aider à avancer dans ce projet-là et à permettre un peu de faire la preuve que c'est possible de monter en toute autonomie sur un parcours.
Salim et Jnaini, qu'est-ce qui vous a donné à vous au fond l'envie de vous dépasser, d'aller chercher l'énergie pour faire quelque chose que personne n'aurait peut-être osé?
Je crois qu'avant d'oser soi-même, il faut aussi avoir l'exemple des personnes qui osent, qu'elles soient réelles ou fictives. Voilà, je vais vous avouer mon petit secret, faudra pas le dire à tout le monde, mais si je vous parle de Daredevil, évidemment, c'est un exemple qui m'a toujours fait rêver.
Daredevil, le héros Marvel, aveugle,
absolument, ouais, tout
avocat
à fait.
Le jour et super-héros la nuit.
Et justicier la nuit, oui, tout à fait. D'ailleurs, un autre petit secret, mais mon équipement, vous le verrez ce soir, est rouge et noir, donc en hommage à Daredevil.
Eh bien, on regardera cet équipement, Salim et Jnaini. Merci à vous. Je rappelle que vous serez donc ce soir en course d'exhibition au Longines Master de Paris à Paris-Nord-Villepinte, dont Europe 1 est partenaire. On vous souhaite une super carrière à vous et à Rhapsody. C'est arrivé cette semaine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Daredevil qui déclenche des vocations, à Sarah Cruz qui prépare cette émission, à Jean-Luc Arblade qui la réalise, ils sont tous les deux super aussi. Juste après le journal de Bérangère Bonte, c'est Mediapolis avec un super duo, Natacha Polony et Olivier Duhamel. Bonjour vous deux.
Bonjour David Abiker.
Bonjour David.
Il a décidé
de ne pas être candidat.
Être ou ne pas être, il ne le sera pas. Très bonne émission à vous deux, excellent samedi sur Europe 1.